16h30, dans le bureau de Par Jupiter, Mélanie est déjà en tenue de lumière pour la soirée du Nouvel An.
Hey les amis, vous êtes prêts pour la grosse teuf?
Ah, tu parles des florilèges de Par Jupiter?
Bah, on a bien bossé quand même, Mélanie.
On a des beaux invités, des beaux sujets, de belles revendications, je dirais.
Et des beaux sketchs aussi.
Oui, mais là quand même, on est plus en mode résoir, non?
Bien sûr qu'on résoir. On continue nos florilèges, je te signale.
Ah, soirée, oui. Et ce soir, on a une belle brochette de Belges d'ailleurs.
Il y a l'écrivaine Myriam Leroy et un vrai musicien, Arnaud. Alors ça va nous changer de ta pop trans indé danoise.
Mais c'est vous les nulos.
Hein?
Vous voulez pas lâcher un peu? Ce soir, c'est la fête. Moi, je sors mes disques de Headbanger. Il y aura Sébastien.
Ouais, super, on connaît bien.
Et Winter.
Ah, alors ça, je la connais, Ophélie Winter.
Non, Pedro Winter.
Ah, Pedro.
Mais attends, mais pourquoi ce soir, là?
C'est le Nouvel An.
C'est ça, 2020.
Et ça y est, enfin, on entre dans l'année des municipales.
Yes.
Débrancher un peu. D'ailleurs, vous pourrez m'écouter, je serai à l'antenne. Il y aura aussi des gens de l'équipe ce soir sur France Inter.
Bah oui, bien sûr, dès maintenant.
Bah, avec des florilèges.
Dans les florilèges.
Bonjour la France Inter et bienvenue dans l'émission qui pose les crevettes de la blague sur le canapé de l'actualité. Ben oui, parler de crevettes n'est pas sans lien avec notre premier invité, Arnaud, qui a préféré nous donner sa recette de tomates de l'Ostende plutôt que la recette de son succès. Et on a parlé de la Belgique qui n'a toujours pas de gouvernement, bien sûr. Une autre Belge nous rejoindra ensuite, la romancière Myriam Leroy, avec qui on évoquera les relations tendues entre la religion et l'éducation nationale française, bien sûr, avant de se pencher sur le cas des bookstagrammeurs. Ce sont ces influenceurs qui nous conseillent des lectures sur les réseaux sociaux. Alex, si on invitait quelques Français dans cette émission, alors.
Allez, on ouvre la porte à Djoubaka. Qui va chroniquer le Mozart belge? Arnaud, bien évidemment. J'ai hésité avec Johnny, mais je trouvais que Mozart, c'était mieux. Guillaume Meurice parlera du voile et faire parler les Français du voile, c'est pas trop compliqué. Constance sera là pour nous parler de prévention suicide, ce qui est un petit peu un thème pour elle. Et on terminera par Frédéric Fromet et son hit presque tout nu dans le TGV.
Très bien, merci Alex. Eh bien, direction Ostende.
On y va.
Et un petit peu partout. Et un petit peu d'impressionnisme.
Chez nous, on rentre chez nous.
Et un peu de James Sansor aussi. Arnaud, c'est parti.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek.
Par Jupiter.
Bienvenue Arnaud.
Bonsoir.
Bonsoir, nous sommes très heureux de vous accueillir. Vous venez nous présenter votre nouvel album qui s'appelle Santé Boutique. Et vous êtes aussi en tournée, une longue tournée partout en France, en Suisse et en Belgique aussi évidemment. Arnaud, vous avez débuté avec le groupe de rock Tessématique. On dit Tessématique ou Tissématique ?
Tissématique, mais c'était après parce que je suis débuté avec un autre groupe qui s'appelle Freckleface et après Jens Carter. Et TC, Jens Carter est devenu Tissématique. Oui.
Donc c'était l'époque très rock. Aujourd'hui vous avez 70 ans, 70 ans, et vous proposez un album plus rock que les précédents, avec du blues aussi. Pourquoi vous aviez envie de rock? Vous aviez envie de revenir un petit peu à l'esprit de cette époque?
Peut-être oui, mais j'ai fait un album qui est un peu un centre boutique. Et centre boutique, ça veut dire une bordelle, quoi.
Mm-hmm.
Parce qu'on vit dans un centre boutique aujourd'hui, je trouve.
C'est-à-dire on vit dans le bordel, en fait?
Ouais. Tout est en train de changer les deux des années, comme le Brexit, il y a un mec qui habite dans l'Amérique avec une coiffure comme une... le cul de lapin rose, qui dit des trucs bizarres, mais les gens, ils ont voté pour lui, et le monde est en train de changer, je trouve, parce qu'on n'est pas loin de la Tour Eiffel, et donc, je trouve le conservatisme a maintenant une érection comme la Tour Eiffel. mais c'est les gens qui votent pour eux. Et ça m'inspire pour faire un album comme ça, quoi.
Et donc, le rock,
Le rock, il y a plus que du rock maintenant dans une coiffure de un salon de coiffure. il y a plus que du rock en dedans.
Oui.
Mais le rock est devenu marketing. Et la révolte est partie, je trouve. Mais il y a l'espoir. Les gens au-dessus de 20 ans, ils se révoltent avec le climat. Mm-hmm. Et ça, c'est rock'n'roll.
Ça, c'est rock'n'roll. Christine Gonzalez.
Sur la pochette, vous donnez un coup de pied dans le sable d'Ostende.
Ouais.
C'est de la colère ?
J'étais pas en colère sur la sable, j'ai eu froid. Et comme les photographes, ils sont jamais fatigués de faire des photos, tu vois. Et moi, j'ai dit à mon copain que je connais depuis des années, comme ça, Danny, j'en ai marre maintenant, baf. Et j'ai fait un coup de bazar dans le sable. Mais j'adore le sable aussi, de la mer du Nord, c'est l'odeur de la mer du Nord salée, toujours mouillée. La mer du Nord est toujours mouillée. Et aussi l'odeur des crevettes et des coquillages. Mais j'ai un problème avec les crevettes. Je suis allergique à des crevettes.
Aïe, comme François de Rugy, vous êtes intolérant.
Ouais. François de qui ?
Il y a un ministre en France qui était avant président de l'Assemblée nationale et qui a dû démissionner parce qu'il faisait un petit peu trop de dîner avec du homard. Oui. Et pour se défendre, il a dit « je suis intolérant aux fruits de mer ».
Moi, j'ai ça. Ouais. Sauf les moules.
Ah.
Ah, ça on ne sait pas pour de Rugy.
J'adore les moules. Et l'odeur des moules. Mais on a aussi à Ostende, c'est connu la mer du Nord, des tomates crevettes. Hein. Mm. Et c'est, donc ce sont des tomates avec des bêtes en dedans.
Bon.
Or, oui, les crevettes.
Les crevettes, sont des bêtes.
Hein. D'accord. Moi, je connaissais les tomates cerises, mais j'avoue que les tomates crevettes, ça m'avait échappé.
Et une fois, j'ai eu un truc avec des tomates crevettes. Oh, et c'était dans les années 70. J'étais avec une copine, une Anglaise, Susie, elle m'a invité pour manger des tomates crevettes. Et Susie, c'est une, elle est de Sussex. Mm-hmm. Et on a mangé, je suis en train de manger des crevettes, les tomates, et j'ai vu une crevette qui fait un clin d'œil à moi.
Ouais, ça arrive, ça.
Non. Ouais, mais maintenant, j'ai compris, j'ai pris une pilule de LSD.
Ah, voilà. Ça, oui, ça arrive plus fréquemment quand on a pris de LSD.
Ils sont en train de... Et après, ils dansent comme les Claudettes. Ouais. Ils ont fait des pirouettes comme les Claudettes dans la tomate.
Dans la tomate.
Oui.
Ça ne vous serait pas arrivé avec des croquettes de crevettes, ça, par exemple?
Je fais bien des tomates crevettes.
Oui, mais là, ce ne serait pas arrivé avec la croquette, ouais. Parce qu'on ne la voit pas, la crevette.
Non, c'était
on est moins emmerdé avec la croquette, moi, je vous le dis.
C'était avec la tomate, et tous les crevettes, ils sont en train de danser avec les cuisses des Claudettes.
Ah bon.
Ouais.
Arnaud, nous on est accro à vous. Alors on est tellement heureux qu'il y a un nouvel album qui s'appelle Santé Boutique. Je pense qu'on va aller les fesses dans le sable avec Djoubaka.
Ouais, c'était il y a quelques mois, j'étais un peu comme dans un rêve, une vapeur d'éther, comme ici maintenant, direction Ostende. Et j'avais retrouvé Arnaud sur la plage. Il faisait beau et c'était pas vraiment ce qu'on préfère tous les deux, mais l'hiver avait été long et ça faisait du bien de s'asseoir le cul dans le sable. Et normalement on aurait dû bosser un petit peu, faire une interview ou tout ce genre de trucs, mais bon, il faisait beau. Et puis j'avais amené une bouteille de vodka. Alors on l'a bu, comme ça, en regardant l'Angleterre de loin, en parlant de rock, d'Elvis, de Marvin Gaye, lors de son exil dans cette ville du Nord. Et puis la lumière était belle comme un tableau de Léon Spilliat. Et la nuit a commencé à tomber. L'attaché de presse désespéré de nous attendre était parti pour son cours de French Cancan. Alors nous, on s'est levé, et puis il a commencé à chanter.
Comme tous les soirs, on se dit rien, on va de bar en bar, ça rime à rien, comme tous les soirs. suis seul avec toi. Au stand, bonsoir.
Et c'est ça qu'il répétait, je suis seul avec toi au stand, bonsoir, qui répétait. Alors je le prends pas mal, hein, parce que des fois l'alcool, ça court-circuite les esprits. Alors là, on chope la digue et on se rapproche de ses bars. Il se décale un peu, me regarde en biais, part en dessous, il a l'œil qui rigole, et c'est là qu'il me sort, je suis avec tout le monde, mais avec personne, et je ferme ma gueule quand je suis tout seul. Alors moi, je comprends le message subliminal tout de suite, ça tombait bien, j'étais là et on pouvait causer. Mais d'abord, on avait soif. Premier troquet. C'est chez Ginette, le genre de rade qui n'a pas dû bouger depuis 1975, où les vieux jouent aux 421 et aux fléchettes, et nous on prend les tabourets de bar comme des princes, comme ça on a une vue un peu circulaire. C'est que le cinéma est dans la salle. La serveuse Cinderella ressemble à un cervelas. Et lui, il la trouve jolie. Il lui raconte des trucs que lui seul semble comprendre. Et puis de l'autre côté de la rue, il y a un réverbère qui s'éteint, et je vois sa tête qui change en loup-garou triste.
Ce sont mes larmes, oui, mes rêves. Souvent je me sens comme une mouche excitée, comme une mouche enfermée, enfermée dans une bouteille vide. Mais les angoisses sont la nourriture pour l'esprit. Et la vie parle de la mort, et la mort parle de la vie. Aujourd'hui, je suis naturel.
Alors, faut pas croire que c'était pas marrant. On se disait juste des choses que les autres n'aiment pas entendre. Et c'est pas parce que la vieillesse est un naufrage qu'on va pas se marrer un peu, aller bouger du beau potin, parce qu'il y a des lumières au loin, des ampoules rouges, vertes, jaunes, et ça me fait penser au bal du samedi soir en banlieue, à la fin des années 70, où on retrouvait, quand j'étais minot, des rockeurs du coin qui se ramenaient avec leurs bécanes, contents de se faire voir. Et je lui demande si lui aussi il a des souvenirs comme ça, de perfecto dans la nuit, avec la pluie qui brille, et qui nique nos bottes. Et comme il a pas la nostalgie mal placée, il préfère me causer d'un nouveau concept, sans de boutique que ça s'appelle.
Ils se disent oui, ils se disent oui, et ils se marient. Ils partagent le même lit, et la salle de bain aussi. Et comme deux animaux domestiques, ils regardent la télé.
Et c'est le matin qui se lève déjà. Et nous, on est contents de notre nuit parce que, comme il le dit, la vie est trop courte pour être petite. Ça, c'est une belle phrase. Hein. La vie est trop courte pour être petite. Et donc, on va bouffer une saucisse chez Maurice parce que, bon, on a quand même le estomac qui fait le hula hop là. Et puis, il me donne une chanson qu'il me dit, il t'écoutera plus tard. Ça s'appelle Chip Chip, c'est fini.
C'est pas la poésie.
sommes fous comme les oiseaux. Tchèp tchèp, c'est fini.
Album d'Arnaud qui s'appelle Sainte Boutique. Merci Djoubaka pour cette magnifique chronique sur l'album d'Arnaud, sur Arnaud, qu'on peut réécouter bien sûr en podcast ou sur franceinter.fr. Chip chip, c'est fini. C'est ce que disait votre grand-mère, c'est ça?
Ouais. J'étais jeune et ma grand-mère était avec ses copines en train de parler de... Donc, dans le living et moi j'étais dans la cuisine. Donc, ils ont des femmes en train de parler de leur mec et tout le bazar. Et ma grand-mère, elle dit, oh, le mec, hein. Quand il jouit, c'est chip, 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 et c'est fini.
Et on va parler un petit peu de la Belgique, parce que la Flandre a enfin formé un gouvernement. Et elle a donc un nouveau ministre-président. Alors attention, pour les Français, ça doit être compliqué d'imaginer qu'on puisse être à la fois ministre-président, qui plus est d'une région. La France, la Flandre est une communauté, une région. Mais vous serez aussi surpris d'apprendre que les journaux francophones annoncent la formation du gouvernement Jambon Premier. Alors, attention, on parle bien d'un gouvernement flamand, hein, pas du gouvernement de la Belgique, parce qu'il n'y en a toujours pas. Hein, attention.
Alors pourquoi trois régions? Eh bien ça vient de la différence entre la conception flamande et la conception wallonne de la fédéralisation. Les flamands recherchent avant tout l'autonomie culturelle pour les néerlandophones, y compris les flamands bruxellois. Les francophones souhaitent eux mener leur propre politique socio-économique en région wallonne, sachant que Bruxelles est une région qui est majoritairement francophone, bien qu'historiquement flamande. C'est quand même beaucoup plus simple que la France. Alors maintenant on va faire les bières par ville, scission, séparatisme, on verra ça plus tard.
François-Xavier de Maison, dans le film Il était une fois, de Christian Méret-Palmer. Alors Arnaud, vous êtes flamand, comme moi à moitié, je suis à moitié flamande. Votre gouvernement s'appelle donc Jambon Ier. Comment est-ce qu'on le vit ça?
Écoute, c'est un centre boutique.
Ah, ouais,
on y revient.
C'est un bordel. Quoi.
C'est un bordel, oui. Ouais. Mais écoute, la Belgique, c'est une pays petit. Quand je suis à Bruxelles, 50 km au nord, je suis dans un autre pays, Hollande. 50 km au sud, je suis en France. Après, je suis en Allemagne, mais la Belgique, c'est un truc très bizarre. On a le côté flamand, francophone, wallon, aussi allemand aussi, et Bruxelles. À Bruxelles, on a 19 bourgmestres.
Maires,
19. C'est comme... C'est, il y a plus que des gens à Paris qu'à toute la Belgique. Tu penses?
Ouais.
Pense à ça.
Il y a des maires d'arrondissement aussi dans les grandes villes.
Oui, mais c'est un... Donc, il y a plus que des gens en France qu'à toute la Belgique, tu vois le bazar. Et en une ville, on a 19 bourgmestres.
C'est une accumulation, c'est comme une lasagne, de bordel. On
peut oui, c'est vraiment un bordel. Comme ça, et comme le mec, le jambon.
Ouais. Alors on va dire qu'en vérité, il s'appelle Yambon. Yann Yambon. Mais en français, on dit jambon, donc c'est jambon premier.
Mais on dit jambon.
Ouais.
En Belgique, on dit jambon, mais maintenant, il a dit que c'est plus jambon, c'est Yambon. Yambon.
Il a senti qu'on se foutait de sa gueule.
Ce mec, il est extrême droite. Hein.
Donc séparatiste, nationaliste.
Et né avec un nom comme ça, jambon, ça doit être dur pour lui, non?
Et pourtant, normalement, on les reconnaît à leur coiffure. C'est ça que vous dites aussi. les nationalistes, les extrêmes droites, on les reconnaît à leur coiffure. Lui, il est plutôt bien coiffé, quand même.
Oui, oui, je trouve aussi, il est... Pour une extrême droite, il est bien coiffé, oui.
Il y a une frange d'extrême droite qui est trop bien coiffée.
Peut-être. Mais est-ce que tu penses peut-être qu'il est végétarien?
Ah, c'est ça alors.
Ah oui.
Donc il ne mange pas le jambon.
Et alors la tomate crevette non plus, c'est sûr. Foutu. Christine Gonzalez.
Et de ces fascismes qui montent et qui touchent de plus en plus l'Europe, vous y êtes extrêmement sensible, Arnaud. Et d'ailleurs, vous ouvrez votre album avec cette chanson très puissante qui s'appelle « They are coming », ils arrivent. Qui arrive?
Ils sont déjà là. Donc je dis pas...
Qui d'autre alors?
Mais écoute, on vit dans une... Donc j'ai dit ça tout à l'heure. On vit dans une période... Est-ce qu'on est dans les années 30? Je sais pas. Donc je veux pas parler comme ça. Parce que je veux... Mais moi, je viens d'une famille réfugiée. Quand les nazis sont rentrés en Belgique, mon grand-père, il a pris toute la famille... décidé à 25 minutes au stand Dover, donc en Angleterre. Et mon père, il a fait son service militaire en Angleterre chez les Spitfires, chez
les avions.
Des avions. Donc je viens d'une famille de ça, parce que ma famille est partie avec un bateau en Angleterre, quoi. Donc, et ça reste dans mes gènes, le bazar. Tu vois, quand j'étais jeune, ils parlent de la guerre et tout le bazar. Et ça reste chez moi.
Il nous reste quelques instants pour lancer ce qu'on appelle un parjupi-proust, Christine, n'est-ce pas?
Oui, et sachez Arnaud que c'est davantage jupitérien que proustien. Je pose des questions puis vous répondez sans trop réfléchir assez vite. Alors, sur une échelle de 0 à 10, de combien vous estimez-vous flamand?
Je sais pas.
Ok. Ouais. Sur une échelle de 0 à 10, de combien vous estimez-vous flamand rose?
Écoute, moi, j'ai pas de frontières, moi. Donc, je vis dans une ville à Bruxelles où on parle 5 langues et je suis confronté avec toutes les nationalités. Et tout le monde a, tous les gens ont 2 trous dans leur nez.
Donc, c'est 2, la réponse. Hein. Ouais. Est-ce qu'Arnaud, oui ou non? Toute question mérite réponse.
Non.
Avec quelle mort ou quelle morte célèbre aimeriez-vous manger un tartare à Ostende?
Quel tartare? Parce que moi,
disons crevette, comme
on dit
ça.
On dit filet américain.
Parce que moi, un tartare de thon.
Ah. Avec qui alors?
Avec Mireille Mathieu.
Ah, ouais.
Ouais. Elle n'est pas morte. Elle n'est pas très morte
encore.
On ne
sait pas, peut-être qu'il a un truc que nous avons fait.
C'est vrai. Il a fait la cuisine à Marvin Gaye, on va dire Marvin Gaye.
Oui, j'étais cuisinier de Marvin Gaye.
Cuisinier de Marvin Gaye.
Quelle est votre insulte en flamand préférée?
Shit.
Ah bon? C'est pas Godverdom?
Non, Godverdom, je ne dis pas ça. J'ai dit... Non, shit.
Ok. Une dernière?
Qui était là en premier? L'œuf ou la poule?
Je pense c'est l'œuf vient de la poule.
Le quoi?
L'œuf vient de la poule.
Vient, ouais. Oui. Donc le cul de la poule. Je pense c'est la poule.
Merci. On va rester là-dessus. Excellente réponse. Voici celui qui sonne chaque jour un petit peu la mi-temps de l'émission.
Voilà, et aujourd'hui, vraiment, il a joué la facilité. Hein, il s'est dit, voilà, c'est
la... Attendez, vous parlez de Guillaume, là?
Mais bien sûr que oui.
Je voulais être sûr.
Non. Il a fait parler les Français du voile.
Ah, d'accord.
Bah oui, bah alors là, il n'y a pas eu grand-chose à faire.
Oui, alors aujourd'hui, je vais vous parler chômage, précarité et écologie, puisque ce sont les trois thèmes qui préoccupent le plus les Français. Et... Oh putain, attendez, excusez-moi, j'interromps ma chronique. On me signale une femme voilée. Qui aurait été aperçue aux abords d'une école. Une école primaire. Il s'agirait bien d'une femme voilée arabe de confession musulmane. Attention à ne pas confondre avec une petite grand-mère catholique qui se protège de la pluie ou Alex Vizorek qui sort de chez le coiffeur avec des bigoudis. Là, il s'agit bien d'une véritable femme voilée. Alors, je vois évidemment la stupeur dans les regards de toute l'équipe de Par Jupiter. Gardez votre sang-froid. L'émission continue quand même. Nous ne céderons rien à la barbarie. Mais comprenez qu'en l'état actuel des choses, je ne peux pas poursuivre ma chronique sur des thèmes aussi secondaires que la précarité et le réchauffement climatique, puisqu'il s'agit d'une femme voilée. Je rappelle, une femme véritablement voilée, on ne voit plus les cheveux de la femme. Excusez-moi, ça me, vous voyez, même moi je suis pris dans l'émotion. La France est paralysée, on passe en plan PP, le plan de secours Pascal Pro. Comme tout bon personnel médiatique, j'avais anticipé ce matin même, en recueillant des paroles de Français traumatisés, par, je le rappelle, un bout de tissu sur la tête d'une femme.
C'est une horreur.
Une horreur, à ce point-là?
Parce que, ici, on est en France, on est libre.
Mais alors, si en France, on est libre, pourquoi elle serait pas libre d'avoir un voile?
Mais parce que c'est pas laïque.
Qu'est-ce que c'est pour vous, être laïque?
Être libre, faire ce qu'on veut.
Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Les femmes doivent pouvoir être libres de s'habiller comme Jean-Michel Blanquer le veut. C'est la base de la loi de 1905. D'ailleurs, 1905, c'est le QI à Jean-Michel Blanquer. Voilà, donc il est très très fort. Il lutte contre l'islamisation qui a d'ailleurs déjà commencé.
J'entends des fois, ils parlent aux enfants, même pas en français. Des fois, j'ai dit à une dame, mais vos enfants vont à l'école? Il me dit, oui. Mais ils parlent comment? Ah ben, ils vont apprendre le français, peut-être. Ah, tu peut-être, faut apprendre le français, refrain des enfants.
Inch'Allah.
Écoutez.
Oh non, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, c'est parce que je traîne avec des islamo-gauchistes toute la journée, je suis désolé. Putain, j'espère que Darmanin va pas m'expulser en musulmanie. En plus, je crois même pas en Allah. Moi, je dis Inch'Allah, mais je crois même pas en Allah. C'est comme si je disais Inch, soirée torride avec Clara. J'y crois pas. Enfin, j'y crois plus, quoi. C'est terminé. Bref, recentrons-nous sur notre cœur de cible, le voile.
C'est contraire à nos mœurs et coutumes. Alors, j'apprécie effectivement. Les voyages, quand je suis à l'étranger, ça ne me dérange pas. Mais donc, je suis effectivement pour conserver nos traditions. Ça me fait plaisir de rentrer chez moi et de retrouver le pain, la baguette et le béret.
Et le béret, bien évidemment, puisqu'on a tous un béret en France, c'est bien connu. Bon, nous, on le met pas tout le temps. On s'est mis d'accord pour que ce soit Jean Lassalle qui le porte pour tous les Français. Mais c'est pareil, il est dans notre tête, le béret. D'ailleurs, ce monsieur, sur la tête, il avait pas un béret, il avait une casquette américaine.
C'est une casquette qui est pratique, puisqu'en fait, ça permet d'avoir chaud l'hiver. Il faut que j'y aille.
Ouais, mais j'ai l'impression que vous respectez pas bien les traditions françaises.
Pourquoi?
Bah avec cette casquette de baseball.
Ah bah écoutez, on a le droit aussi d'innover un peu.
Ah, mais pas les femmes voilées par contre.
Non,
c'est quand même très simple, hein. C'est pas compliqué à piger. La culture étrangère, c'est cool. Si c'est pour bouffer des burgers en matant du catch, d'accord. La culture américaine n'est pas invasive, c'est la culture arabe le problème. D'ailleurs, puisqu'on parle de culture, voyons voir une dame qui elle-même est métisse. Elle est née d'une mère espagnole et d'un père allemand, mais elle est française, hein, pour autant, attention, jusque dans sa vision du pays.
Vous voyez, ils sont 80% des arabes pratiquants dans notre pays, donc bon, il faut quand même qu'ils respectent les 20% qui restent.
Vous pensez qu'il y a 80% d'arabes pratiquants?
Ah oui.
Mais pratiquant quoi?
Pratiquant l'islam pur et simple, quoi.
80% de la population française?
Ah oui, oui.
Et on apprend énormément de choses, hein. 8 personnes sur 10 en France sont musulmanes, ils l'ont dit sur CNews, hein. Donc c'est vérifié, c'est d'info de qualité. D'ailleurs, les dernières personnes qui ne sont pas musulmanes en France travaillent pour CNews. Et encore Morandini, je l'ai entendu dire, je vais me faire le jeûne. Mais je sais pas s'il parlait du stagiaire ou du ramadan. Bon, en tout cas, ça change rien quand une femme voilée vient dans un conseil régional.
Elle avait une manière également d'agresser la République par ses... Hein, elle n'est pas venue d'une manière neutre, je pense, dans cette enceinte.
En mettant un voile, elle agresse la République?
Visuellement, elle agresse.
Visuellement, elle agresse, hein, la République, je le rappelle, n'est pas agressée par des millions de travailleurs pauvres, par 500 personnes qui meurent dans ces rues tous les ans, par des espèces qui meurent également par milliers, par des chômeurs, des migrants qui se noient ou par le dernier album de Florent Pagny. Elle est agressée par un bout de tissu qui voile les cheveux et qui dévoile une récupération et une xénophobie d'État.
C'était Madness, Night Boat to Cairo, que vous traduisez par...
Par bateau de nuit pour le Caire.
Très bien, merci.
Je pense que c'est la bonne traduction.
Allez, on va enchaîner avec cette deuxième partie d'émission où nous accueillons la romancière belge Myriam Leroy.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Vanunacker.
Ah, voilà des manières.
Alex Vizorek.
Où croyez-vous par Jupiter ?
Bienvenue Myriam Leroy.
Merci.
Nous vous avons invité car nous avons adoré votre roman intitulé Les yeux rouges paru au Seuil. On n'est pas les seuls d'ailleurs. Les auditeurs ont pu vous entendre récemment chez Antoine de Caunes pour en parler. C'est l'histoire d'une chroniqueuse radio qui distille son ironie grinçante, on va dire, sur la radio publique belge. Et Denis est un auditeur qui apprécie son point de vue dans une radio qu'il considère comme étant à la botte de l'État. Il l'appelle la Pravda. Alors il lui écrit souvent à cette chroniqueuse à travers les réseaux sociaux. Il réagit à ses chroniques. Il voudrait la rencontrer. Elle lui répond sporadiquement, quelques courts messages. Lui raconte sa vie, écrit fréquemment, fait déposer des cadeaux. Mais il commence à s'agacer de son silence, à s'agacer aussi de ses chroniques qu'il ne trouve plus finalement trop à son goût. Qu'on fait. Et l'étau commence à se resserrer. Denis lui pourrit la vie sur Internet, l'étau du cyberharcèlement, on va dire. C'est un roman qui est inspiré de votre vécu.
Oui. Oui.
Ça va mieux, on dirait.
J'ai beaucoup souffert.
Oui, vous êtes effectivement, vous avez été chroniqueuse sur la RTBF. Ouais. Et puis, avec cette fiction, vous avez amplifié ce vécu, vous l'avez nourri ou édulcoré. Comment est-ce que vous avez façonné la glaise de votre expérience pour en tirer la fiction?
Comment vous avez façonné la
glaise de votre expérience? C'est très beau. C'est une très jolie question.
Le livre étant très bien écrit, j'ai un peu chié de mes questions.
Ouais, ça se sent, ça se sent.
Alors, je pense l'avoir un peu édulcoré par rapport à ce que j'ai réellement vécu. Je vois vos yeux s'ouvrir comme des scoops.
Ah oui, ça, je suis, pardonnez-moi, là, ça vous, de dire sur le cul, ça le vaut.
Un petit peu, parce qu'en fait, il fallait que le personnage de Denis soit pas tout. Enfin, il fallait que ce soit pas trop manichéen, hein, que le lecteur puisse se dire, peut-être que je pourrais partager des opinions avec Denis, ou je pourrais quelques agacements. Sur l'air du temps. Enfin, il fallait que le type soit compréhensible et qu'on puisse appliquer une grille de lecture normale d'être humain sur un être humain et non sur un monstre. Or, moi, j'ai l'impression dans la vraie vie d'être plutôt tombée sur le type vraiment extraterrestre, quoi. Impossible.
Ah oui. Ah, donc le roman est édulcoré alors qu'on l'a tous ressenti comme.
Comme super glaçant.
Ouais.
Oui. Disons que l'armature du roman est vraiment inspirée de faits réels. Et puis, j'ai été y plaquer des trucs vus chez mes consoeurs aussi parce que c'est pas un témoignage sur les chroniqueuses de la radio harcelées. Je crois que j'ai voulu pointer la dimension collective du problème, c'est-à-dire que dès qu'une femme a une attitude qui permet plus de la confondre avec un paillasson, on essaye de la réduire au silence.
Myriam Leroy, alors qui est Denis? Parce que son portrait est précis, son discours est précis. Ce qu'il vous écrit, effectivement, on peut parfois être d'accord avec lui, donc à un moment on peut presque tomber d'accord et puis...
Et même peut-être sous le charme de cet homme.
Effectivement, ouais. Donc qui est-il? Est-ce que on a l'impression que vous êtes entré dans sa tête? Denis, c'est des kilomètres de commentaires Facebook que vous avez lus?
Ouais, en fait, un peu par la force des choses, j'ai vécu quelques expériences de harcèlement à grande échelle. Et je me suis intéressée à ces gens. Je me suis dit, mais qui sont ces gens? Pourquoi me disent-ils qu'ils vont me violer et me dépecer à longueur de journée? Et donc, je les ai un petit peu espionnés, je dois bien l'avouer, pour... comprendre. Et alors, j'ai toujours pas compris, mais en tout cas, je suis capable maintenant d'être un générateur automatique des invectives dont ils sont coutumiers.
Vous avez réussi à assimiler la chose.
Oui, je les mime très bien. Je sais très bien les reproduire. Par contre, j'ai eu beau lire Adorno, des théories sur la personnalité autoritaire et tout ça. Non, j'ai toujours pas pigé.
Vous pourriez harceler quelqu'un terriblement. Aujourd'hui, vous avez les clés, en fait.
Ouais.
Vous avez les clés pour le faire. Myriam Leroy en notre compagnie et dans ce studio également. Oh, on est foufou. On a fait venir Constance.
J'aime bien changer nos petites habitudes de couple. Je vous surprends. Mardi dernier, le 10 septembre, c'était la journée mondiale de prévention du suicide. Nous sommes le 12, je suis toujours là. On peut dire que c'est une journée qui a bien fonctionné. Il y a beaucoup plus de raisons, je trouve, d'avoir envie de crever plutôt que de rester en vie. Mais si l'on se penche sur les quelques raisons de s'accrocher à la vie, eh bien, on n'est pas à l'abri de trouver que finalement, c'est plutôt une bonne idée de ne pas lâcher le morceau. Pour commencer, vivre, c'est douter. Et douter, c'est se demander ce qu'est exactement le fait de vivre. Et si nous pouvons douter du fait de vivre, peut-on douter du fait d'être en vie pour douter? Ou est-ce qu'on est là pour douter? Ou est-ce qu'on vit pour douter?
Bonne question.
Ouais. Voilà. Moi, j'ai un doute. Mais... un petit pétard là-dessus. Et vous êtes occupé pendant de longues heures. Et quand vous êtes occupé, vous n'êtes pas tenté de vous flinguer. Voilà. Ensuite, si votre vie vous rend malheureux, mais si vous ne pouvez pas ou si vous ne voulez pas la changer, eh bien, vous avez en vous un immense pouvoir appelé l'imagination. L'imagination, personne ne peut vous la voler. Et grâce à ce super pouvoir, vous pouvez tout vivre sans courage ni conséquence. Personnellement, dans ma tête, je tue régulièrement des gens à coups de latte dans la gueule ou j'ai des relations sexuelles avec des gens avec qui normalement je ne pourrais pas ou je ne devrais pas coucher. Par exemple, là dans ma tête, je fais une petite pipe à Jacques Brel. Il aime bien ça. Et là, je fais une petite branlette à Rock voisine. Pas dans les cheveux, Rock. Et oui, je suis une... oui, je suis une vraie petite salope cérébrale, mais personne n'est au courant. Chut. Ah bah si, maintenant tout le monde le sait. Tant pis.
Même Rock voisine.
Même Rock voisine. Rock, si tu m'écoutes. Grâce à l'imagination, je peux m'échapper de n'importe quelle situation qui m'angoisse. Une fois dans ma tête, j'ai imaginé que j'inventais une gomme à gros con. Et tous les gens qui me donnaient envie de mourir, je les effaçais. C'était chouette. Mais au bout d'un moment, il me restait plus personne autour. Du coup, j'ai dû inventer un stylo à redessiner les gens. Et comme je dessine hyper mal, et ben mon nouveau monde était encore plus nul que le vrai. La boulette. Sinon, pour éviter de mettre fin à ses jours, ce qui marche bien, c'est d'être gentil avec soi-même. Moi, par exemple, quand je sens que je suis nulle pour faire quelque chose, c'est-à-dire assez souvent, eh bien, je mets en valeur mon incompétence. Je me dis que je suis excellente dans le fait d'être nulle. J'ai même parfois, je le confesse, la grosse tête dans l'échec. Il m'arrive de me dire que je suis certainement la meilleure des plus nuls. Et dans ma tête, les gens m'acclament et ils hurlent mon nom. Ils disent genre « Constance, bravo, vous êtes la reine des plus nuls, vous êtes la reine des plus nuls !» Oh là là. Et là, ils me mettent une couronne en or sur la tête. Ils me disent « Rentrez dans cette tente, Rock voisine vous attend !» Se suicider, c'est un petit peu dommage. Parce que, comme c'est bientôt la fin du monde, alors il suffit juste d'attendre un tout petit peu. Comme ça, si Dieu existe, il ne pourra pas t'engueuler parce que tu t'es tué. Et il aura le nez dans son caca à Dieu parce qu'il aura dessiné l'homme avec un stylo qui fonctionnait pas très très bien. Et apparemment, il avait mal rangé ses affaires, Dieu, parce qu'il avait perdu sa gomme à gros con. Ça y est, j'ai parlé de Dieu. Je vais encore me faire insulter pendant 15 jours sur les réseaux sociaux. Pas grave, contre la bêtise, je vais inventer dans ma tête une machine qui fait manger des carottes à une personne à chaque fois qu'elle est agressive. Comme ça, les cons, ils auront les fesses roses. Ça résout pas le problème, mais en tout cas, moi, ça me fait rire. Je dédie cette chronique à ma mamie Janine, partie le 27 septembre 1987, et à tous ceux qui ont décidé de partir avant d'atteindre la fin du film. J'espère que maintenant vous êtes heureux. Et nous, eh ben, en attendant de vous retrouver, ici pour tenir, on fait des blagues. Bisous.
Merci Constance. Myriam Leroy, la romancière, est en notre compagnie jusqu'à 18h pour aborder ce sujet d'actualité avec nous. La justice vient de réhabiliter un professeur qui avait été lourdement sanctionné pour faute grave par l'Éducation nationale. Pourquoi ? Parce qu'il a fait lire la Bible en classe. Des parents ont dénoncé anonymement du prosélytisme. Le prof a été muté, mais la justice vient d'estimer qu'il avait fait lire la Bible parce que la mythologie chrétienne explique bien des choses, l'art, la culture, et qu'on le veuille ou non, des fondements de notre civilisation. Quant à ceux qui sont les dénonciateurs anonymes, allons voir chez eux, tiens, la poutre et la paille.
Putain, merde, pas de bol. Et 60 millions de Français, il a fallu que la grâce divine tombe sur Elliot. 8 ans, mon fils.
Elliot avec des sandales et une chasuble, je m'y ferai jamais.
Mais... Non mais tu te rends compte que s'il devient moine, on le verra plus qu'au parloir, hein, comme en prison. Puis dès qu'on lui fera un cadeau, il le refilera à l'église. Tout notre fric ira à l'église, Denis. Tout ce qu'on a, hein.
Oui, bah en attendant, il va trouver une bonne activité parascolaire normale.
Isabelle Gélinas et Bruno Salomon dans Fais pas ci, fais pas ça, la série de France 2 qu'on adore ici. C'est un article paru ce matin dans Le Figaro. Cette histoire montre la crispation qui existe entre quand la religion rencontre une institution française comme l'Éducation nationale. Est-ce que c'est un peu un cliché français dans les yeux d'une Belge?
Et moi, c'est une info qui me fait pas tellement tiquer parce que...
Alors, tiquer, on dit ça?
Ah, on dit pas ça.
Ah non, je parle ça. Ah, super. Parfois, je mélange les deux. Mais moi, j'aime beaucoup cette expression. Mais...
Ça me fait pas tellement tiquer parce que j'ai fait toute ma scolarité dans des écoles catholiques et même j'étais à l'université catholique de Louvain-la-Neuve où il y avait un cours obligatoire qui s'intitulait « La Bible et son message ». Donc voilà, donc je connais fort bien la Bible, fort bien son message, mais la scolarité et religion, voilà, pour moi, ça semblait naturel à l'époque.
Oui. Ah oui, donc, mais ça veut dire que, est-ce que ça vous a influencé ou pas?
Ah oui, surtout à fuir à toutes jambes. Tout ce qui ressemble de près ou de loin à un Jésus.
Oui, oui. Donc, c'est-à-dire que ça pourrait paraître étonnant, je m'adresse autour de la table aux Français, d'avoir une université catholique. Et il y en a plusieurs en Belgique, à Saint-Louis, à Bruxelles.
Il y en a à Lille aussi. Il y a eu, une facato à Lille.
Mais alors, en Belgique, j'ai toujours envie de dire chez nous, mais après, on ne sait plus où on est.
Chez nous autres.
Chez nous autres, en Belgique. Il y a beaucoup d'écoles catholiques. Il y a un parti qui a été le centre de la vie politique pendant 30 ans.
Le Parti social chrétien.
Voilà. Le deuxième journal, il y a Le Soir et La Libre Belgique qui est catholique. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses qui sont dites catholiques. Mais est-ce que pour autant, la Belgique est un pays si catholique que ça quand on regarde la société française?
En voyant qu'on a légalisé toute une série de choses que vous avez du mal à lâcher manifestement la société française, on pourrait croire
comme
qu'on
l'euthanasie,
est très,
par
voilà,
exemple.
Qu'on est très en avance en Belgique. Mais je suis même pas sûre que c'est ça. Je pense que juste le Belge, il fait moche dehors, il a pas envie d'aller manifester. Il y a une sorte d'aquabonisme qu'on pourrait résumer par c'est déjà bon, on n'est pas consulté de toute façon. Donc je suis pas sûre que le Belge soit plus progressiste que le Français rapport à ça.
Ah oui, c'est-à-dire que les Français vont sans cesse dans la rue, gueuler, etc.
Oui, dans le débat, très important de faire entendre sa voix. Chez nous, rien n'est très important. Ouais.
Donc, il y a des choses qui sont passées crème, comme les Français nous ont regardé avec plus d'acuité quand ils se sont rendus compte que 10 ans avant, on avait légalisé le mariage homo. C'est juste parce que les gens ont dit « Oui, bon, allez. »
Ils l'ont pas vu et c'est passé en stumelings.
Refaites le Jean belge. Comment il a fait le Jean belge?
Oui, bon, allez.
C'est surtout là-bas, c'est des gens comme ça.
Myriam Leroy a raison. Il fait moche dehors. Oui, c'est ça. Ça fait avancer la société quand même, finalement, ou pas?
Oui.
Myriam Leroy, on va aborder ce dernier sujet avec vous en revenant au livre, justement. Instagram est le réseau social des livres. Les lecteurs postent la photo de la couverture d'un bouquin qu'ils ont aimé. Et désormais, on trouve des influenceurs littéraires auxquels les éditeurs font les yeux doux parce que c'est de la pub à l'œil. Alors, ils se sont baptisés les Bookstagrammeurs et bookstagrammeuses. Ils ne sont ni critiques littéraires ni journalistes, ils sont simplement animés par la passion.
Deux grandes catégories s'offrent à votre choix. D'une part, les bandes dessinées, les 7 boules de Christiane, Tintin en Picardie, et d'autre part, pour le plus audacieux, les livres sans images. Bon, Bon, si vous ne trouvez pas chaussures à votre goût, n'hésitez pas à demander conseil à un spécialiste. Pardon, vous n'avez pas une petite idée de livre?
Dans quel genre?
Un livre pour lire, quoi.
Faux Contact, un programme de la télévision belge avec le
Manu
comédien.
Toro.
Exactement.
C'était regretté, oui. Manu Toro.
C'est merveilleux. Je vous le conseille si jamais vous pouvez regarder Faux Contact. On le passe souvent ici, on pense souvent à lui. C'est vraiment irrésistible. Myriam Leroy, est-ce que vous savez si votre roman apparaît sur Instagram, réseau beaucoup plus doux que Twitter ou Facebook, et si un influenceur littéraire en a déjà parlé? Vous regardez un peu?
Ben oui, quelques-unes, parce que ce sont surtout des femmes, C'est un drôle de monde, en fait. C'est les bookstagrammeuses, avec une esthétique, avec des petits chats qui traversent l'image, ou des mugs avec un café ou un thé.
Donc c'est-à-dire qu'il y a une mise en scène de...
Il y a une mise en scène très positive, très bonbon, autour de la lecture. Vous me coincez parce que je ne peux décemment dire que du positif de ces gens, parce qu'ils sont méga influents. Incroyables. Et alors, il y a des kilomètres de commentaires sous les posts consacrés au livre. Ah, tu l'as lu, j'ai bien aimé, moi pas, explique-moi. Ah, merci beaucoup pour ta contribution. Mais alors, c'est vraiment fait avec énormément de politesse, de gentillesse. C'est un monde enchanté.
C'est ce que j'allais vous
dire. Attendez que Denis découvre Instagram.
Denis, le monstre du livre de Myriam Leroy. Myriam Leroy, Alex Vizorek va vous soumettre un petit questionnaire. On a une équipe, Myriam. Vous inquiétez.
Le questionnaire par Jupiter Proust. Donc, c'est comme le questionnaire de Proust, mais avec les préoccupations de par Jupiter. On y va, vous réfléchissez pas trop. Et vous attendez. Sur une échelle de 0 à 10, vous vous situez de gauche à combien?
Mais je suis journaliste, je peux pas le dire. J'ai ma carte de presse Joker.
Ok, les journalistes, donc 10. J'avais la même question avec de droite, mais vous allez me ressortir le deuxième Joker. De quel artiste masculin auriez-vous aimé être la muse?
Oh, quelqu'un de beau, je sais pas. Ah, je peux pas le dire parce que je crois que mon amour m'écoute.
Il peut être décédé, hein, le gars.
Il peut être décédé. Baudelaire.
Oh, Baudelaire, c'est beau. Quel est le dernier prix Nobel de littérature que vous ayez lu?
Oh, Modiano.
Fleur Pellerin.
Mais moi, j'y arrive pas, malheureusement, Modiano. J'adore le discours qu'il a reçu au Nobel, je le trouvais vraiment fantastique, mais je n'arrive pas à lire, à terminer un livre de Modiano.
Vous préférez dire que vous n'aimez pas Modiano plutôt que vous êtes de gauche, c'est fort.
Oui, oui, je sais, ça marche.
Peut-être qu'entre temps, vous avez écouté Bob Dylan.
Non plus.
Non. Quelle est votre insulte préférée qui soit ni sexiste ni homophobe?
Plouc.
Oui.
Ah, chouette,
et depuis quelques instants, sac à pu.
Quel est votre principal trait de caractère quand vous êtes ivre?
La nudité. Ah non, c'est pas.
Ah oui, si. Vous êtes encore sur Instagram. On peut vous demander donc des photos de ces moments-là. Vous aimez bien ça. Si vous deviez masser Patrick Bruel, dans quelle tenue aimeriez-vous qu'il arrive?
Avec une serviette. Si possible.
Serviette patoche. Allez, la petite question pour vous. On imagine que vous êtes la Sisyphe 2.0. Vous êtes obligé de troller une personnalité jusqu'à la fin de votre vie. Qui est-ce?
Sac à pu. Ce sera la dernière réponse.
Qui est-ce? Alexandre Benalla.
On est bien valide.
Et voici l'homme qui a sa sulfateuse à la main, sulfateuse à six cordes.
Exactement. Et il va nous parler d'un. C'était tu. Il a fait une brève.
C'est Frédéric Fromet.
Mais déjà.
Je voulais être sûr.
Mais bien sûr que oui. Sauf que pour une fois, la chanson portait sur une brève, un homme qui s'était promené nu dans un train en France.
Tout nu dans le TGV, on ne sait plus très bien où ranger son billet. Tout nu dans le TGV, quand les portes se ferment, ne passe la coincée. Tout nu dans le TGV, prendre garde également s'il faut composter. Tout nu dans le TGV, à moins qu'il soit encore en grève. Tout nu, on ne pense plus à la tenue qu'il faut. Dans un TGV à Walpé, on se croirait dans un Ouigo. Tout nu, il n'y a plus de première ou seconde classe. Sur le chemin de fer, le cul à l'air, ce n'est pas plus dégueulasse que les tarifs. Le prix des places, du simple au double pour le même trajet. Dans le TGV, c'est un vrai gain de temps si on se fait fouiller. Tout nu dans le TGV, on comprend mieux quand le train est à l'arrêt. Tout nu dans le TGV, ça peut se faire aussi dans un intercité. Tout nu dans le TGV, à moins qu'il soit bloqué par des feuilles. Tout nu, c'est pas couillon, c'est même plutôt malin. Dans le TGV, c'est une façon de dévoiler l'arrière-train. Tout nu, c'est pas plus con que de faire des effets de toilette, que de trimballer toute sa maison dans une valise à roulettes. C'est pas plus con que de vouloir faire rimer cheminot et boulot. Hey, tout nu dans le TGV, c'est plus drôle qu'un tract de la CGT. Tout nu dans le TGV, pourvu que le chef de gare souffle dans le bon sifflet. Tout nu dans le TGV, attention, c'est mon cul, pas un colis suspect. Tout nu dans le TGV, société naturiste des chemins de fer. Tout nu dans le TGV, je vais m'arrêter là, je crois que j'ai déraillé. Cette chanson comme un TGV aurait dû être supprimée.
Merci pour cette heure passée ensemble, Alex. Mais la dernière de 2019.
Ah oh là là, une année de plus à nous deux.
Oh là là,
c'est
bon formidable. Réveillon à vous, en tout cas.
Bon réveillon, fourrez la dinde, hein, pensez à moi.
Et alors demain, si vous êtes frais, oui. Et on l'espère, bon à 17h ça devrait être bon, on va passer une heure en compagnie d'Éric Elmosnino. tout seul, parce que c'est l'une de nos émissions les plus dingues depuis 5 ans.
Le
mec est dingue.
Il n'y avait rien à enlever.
Exactement, on vous l'offre in extenso, c'est cadeau pour vraiment bien commencer l'année. Soyez là au rendez-vous demain, on passe le cap ensemble, c'est parti, à demain.